VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du mercredi 25 janvier 2023. En Mauritanie, l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz devant la justice de son pays dans un procès historique pour corruption. Au Sénégal, l'ex-premier ministre Aminata Touré déchu de son poste de député. L'opposant tanzanien Tundu Lissou est de retour au pays après des années d'exil. Les États-Unis vont livrer 31 chars Abrams à l'Ukraine, annonce faite par le président Joe Biden lui-même. L'Allemagne avait donné son feu vert pour l'envoi de chars Léopard. À suivre également dans cette session d'information, la Minute Éco, un oléoduc et un gazoduc de 6500 km en projet en Afrique centrale. Et pour l'esport athlétisme, doublé pour Jason Tesson lors de l'étape 3 de la Tropicale. Amissa Bongo, bonsoir, bienvenue. On commence par le journal. La France va retirer ses troupes du Burkina Faso d'ici un mois, a indiqué aujourd'hui le ministère français des Affaires étrangères, après avoir été officiellement informé mardi par les autorités de la transition de la dénonciation des accords de défense entre les deux pays. Le Burkina Faso héberge un contingent de près de 400 forces spéciales françaises, la force Sabre. Elles auront quitté le pays d'ici fin février. Le retrait de tous les matériels devrait être achevé fin avril, a affirmé une source proche du dossier. Le gouvernement burkinabé a confirmé lundi avoir demandé le départ des Français dans un délai d'un mois, mais Paris avait répondu à attendre des clarifications de la part du président de transition Ibrahim Traoré. En Mauritanie, le procès de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz s'est ouvert aujourd'hui devant un tribunal de Nouakchott où il est accusé d'avoir abusé de ses plus de 10 ans au pouvoir pour amasser une fortune immense. Le point avec Rosé Monizero.
Mohamed Ould Abdelaziz comparé à côté de deux anciens chefs de gouvernement, d'ex-ministres et des hommes d'affaires. Ils ont été placés en détention mardi après-midi en vue de ce procès. Ils sont tous accusés d'enrichissement illicite, abus de fonction, trafic d'influence ou blanchiment. Monsieur Aziz, 66 ans, n'a cessé de nier les faits. Il est l'un des rares ex-chefs d'État à devoir rendre compte sur la façon dont il s'est enrichi, mais ses pairs ont souvent été jugés pour des crimes de sang. Monsieur Aziz, fils de commerçant, se serait constitué un patrimoine et un capital estimé à 67 millions d'euros au moment de son inculpation en mars 2021. Il ne s'est jamais expliqué sur la provenance de sa fortune. Les parties s'attendent à des semaines ou des mois de procès. Monsieur Aziz a dirigé la Mauritanie de 2008 à 2019 avant de passer le relais à son ancien chef d'état-major, Mohamed Ould Cher El Ghazouani. Ce procès est l'histoire de sa disgrâce et de son amitié ruinée avec celui qu'il avait désigné comme son dauphin. Son successeur s'est toujours défendu d'ingérence dans ce dossier. En décembre 2019, Monsieur Ghazouani décrivait encore Monsieur Aziz comme son frère et son ami.
Au Sénégal, l'ancienne première ministre Aminata Touré, élue députée de la mouvance présidentielle lors des législatives de juillet, a été déchue de son siège suite à une initiative du camp présidentiel. Yacouba Ouedraogo.
Selon le député d'opposition Abba Mbaye, la formation au pouvoir dit avoir constaté la démission de fait de Madame Touré de ses rangs. 10 membres du bureau ont voté en faveur de cette déchéance contre 7, affirme M. Mbaye. Dans un communiqué, Aminata Touré dit qu'elle reste plus que jamais déterminée à poursuivre son combat pour l'enracinement de la démocratie sénégalaise et contre toute tentative de troisième mandat moralement et juridiquement inacceptable. En septembre, Mimi Touré, comme elle est surnommée au Sénégal, a annoncé son retrait du groupe soutenant le chef de l'État au Parlement, le justifiant par son opposition à un troisième mandat. Élu en 2012 pour 7 ans et réélu en 2019 pour 5 ans, le président Macky Sall est toujours muet sur ses intentions pour 2024, même si la Constitution dit clairement nul ne peut exercer plus de 2 mandats de suite. Après avoir dirigé la campagne de la majorité et conduit sa liste aux législatives de juillet, Mme Touré a lâché le camp du pouvoir après sa mise à l'écart du poste de présidente de l'Assemblée nationale.
La justice sénégalaise a condamné ce mercredi à une peine de 2 ans avec sursis les deux propriétaires des deux bus dont la collision a fait 42 morts le 8 janvier dans le centre du pays. Le tribunal de Kaolack a en outre condamné les deux prévenus à payer chacun une amende de 106 000 francs CFA. L'accident du 8 janvier à Sélékilo a été causé par l'éclatement d'un pneu ayant provoqué la collision des deux bus. Il a été suivi le 16 janvier par un autre accident ayant fait, lui, 22 morts dans le nord du pays. L'ancien président kényan Uhuru Kenyatta a appelé ce mercredi à l'apaisement dans l'est de la République démocratique du Congo, où les combats entre armées congolaises et groupes rebelles persistent et les tensions avec le Rwanda restent vives. Dans un communiqué, le facilitateur de la communauté des États d'Afrique de l'Est dans la crise en RDC a exprimé sa profonde préoccupation face à la forte détérioration de la situation dans la région du Nord Kivu, où des combats ont éclaté entre divers groupes armés, l'armée congolaise et le M23. En Tanzanie, Tundu Lissu, figure centrale de l'opposition, est rentré ce mercredi de plus de 5 ans d'exil, alors que le gouvernement a multiplié les signes d'ouverture ces derniers mois. Claire Morin-Jibou.
Arrivé à l'aéroport de Dar es Salaam, Tundu Lissu a été accueilli par des responsables de son parti Chadema. Il a salué du toit de sa voiture des milliers de partisans venus l'acclamer avec des vuvuzelas agitant des drapeaux aux couleurs bleu, blanc, rouge du parti Chadema. Tundu Lissu a annoncé son retour en Tanzanie le 13 janvier, 10 jours après l'annonce de la levée de l'interdiction des meetings d'opposition par la présidente Samia Suluhu Hassan. Cette interdiction a été prise en 2016 par John Magufuli. Critique virulent du parti au pouvoir, le Chamacha Mapinduzi, Tundu Lissu était revenu brièvement en Tanzanie en 2020 pour concourir à l'élection présidentielle face au président John Magufuli, qu'il avait qualifié de dictateur. Après le scrutin, Tundu Lissu avait reçu des menaces de mort et avait quitté le pays.
Plusieurs milliers de Sud-Africains ont protesté aujourd'hui contre la crise de l'électricité dans la première puissance industrielle du continent, incapable de produire assez de courant et régulièrement paralysée par des coupures qui se sont aggravées. John Suisen, le chef de l'opposition, a affirmé que le pays est à bout. Il a averti que les manifestations placées sous forte présence militaire, policière du moins, se sont déroulées dans le calme. Au moins 8 personnes sont mortes après le naufrage de leur embarcation remplie de dizaines de migrants africains au large des côtes libyennes, a déclaré aujourd'hui l'organisation locale du Croissant Rouge, ajoutant que près de 100 autres personnes ont été secourues. Les corps se sont échoués mardi sur le rivage près de la ville libyenne de Castelverde, à 40 km à l'est de Tripoli.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et c'est fait. Washington va livrer 31 chars Abrams à l'Ukraine pour l'aider à combattre l'invasion russe, a annoncé aujourd'hui le président Joe Biden, lui-même, dans la foulée du feu vert allemand à l'envoi de chars à Kiev et en dépit des avertissements de Moscou. Le point avec Idriss Fall.
Cette décision a été prise dans la droite ligne de nos efforts en vue de fournir à l'Ukraine les capacités dont elle a besoin pour continuer à mieux se défendre, selon le président Joe Biden dans son discours aujourd'hui depuis la Maison-Blanche. Je vous annonce que les États-Unis vont envoyer 31 chars Abrams à l'Ukraine, donc pour renforcer les capacités de l'Ukraine à se défendre et atteindre son objectif. Kiev réclamait depuis des semaines des chars modernes, les jugeant essentiels pour repousser l'invasion russe. Pour le Pentagone, les 31 chars Adams sont précisément le chiffre correspondant à la composition d'un bataillon de chars ukrainiens. La nouvelle intervient après que l'Allemagne a donné son feu vert à l'envoi de chars lourds Léopard à l'Ukraine. Le chancelier allemand Olaf Scholz a aussi donné son accord à la livraison par la Pologne et d'autres pays qu'il souhaiterait de chars Léopard 2, tout en affirmant vouloir éviter une escalade qui conduirait à une guerre entre la Russie et l'OTAN. Moscou a de son côté dénoncé une décision extrêmement dangereuse qui va amener amener le conflit vers un nouveau niveau de confrontation, selon l'ambassadeur russe à Berlin, Sergei Netchaïev.
Et l'Ukraine a confirmé ce mercredi le retrait des forces ukrainiennes de Soledar au nord-est de Bakhmout, dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, près de 2 semaines après l'annonce de la capture de la ville par Moscou. C'est la première fois que l'Ukraine confirme la capture de Soledar par les forces russes revendiquées par Moscou le 13 janvier. Puis l'Iran a répondu aujourd'hui du tac au tac aux dernières sanctions de l'Union européenne et du Royaume-Uni en prenant des mesures réciproques plus de 4 mois après le début du mouvement de contestation provoqué par la mort de Mahsa Amini. L'Iran avait averti mardi qu'il allait répliquer à la décision prise la veille par l'Union européenne d'ajouter 37 personnes ou entités iraniennes sur la liste de ses sanctions pour les violations des droits humains. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Mouhamadou Mfa.
Le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Tchad, le Congo et la RDC projettent de construire un oléoduc et un gazoduc régionaux de 6500 km selon le média spécialisé Energy Capital Power. Au cours d'une table ronde organisée par la Chambre africaine de l'énergie, le ministre des Mines et des Hydrocarbures de Guinée équatoriale a révélé que l'Organisation africaine des producteurs de pétrole travaille déjà avec un cabinet conseil pour l'étude du projet qui devrait être opérationnel à partir de 2030. Les progrès dans le développement humain et économique en Afrique sont freinés par un recul généralisé de la démocratie et une situation sécuritaire de plus en plus tendue, selon l'indice de la Fondation Mo Ibrahim publié mercredi. Même si le niveau moyen atteint par la gouvernance globale sur le continent est meilleur en 2021 qu'en 2012, celui-ci stagne depuis 2019, note le rapport de la Fondation. En 2021, la balance des paiements courants de la Tunisie a enregistré un déficit estimé à 6% du PIB du pays, a révélé mardi la Banque centrale de Tunisie. Selon la banque, ce résultat s'explique par la reprise des échanges des biens et services à un rythme soutenu en 2021 et par le maintien des revenus du travail à un niveau acceptable.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Doublé pour Jason Tesson lors de l'étape 3 de la Tropicale Amissa Bongo.
Oui, après sa victoire lors de la deuxième étape courue hier mardi, le Français s'est à nouveau imposé aujourd'hui entre Lebamba et Mouila. 123 km, Jason Tesson arrache du même coup le maillot jaune à son compatriote Geoffrey Soupe, vainqueur lundi de la première étape et qui est relégué au deuxième rang du classement général. Demain, l'acte 4 amènera le peloton de Mouila à Lambariné, 190 km. Pour rappel, après une pause de 2 ans en raison de la pandémie de COVID-19, cette 16e édition de la Tropicale Amissa Bongo se court sur 903,2 km divisé en 7 étapes. L'arrivée finale est prévue pour le dimanche 29 janvier.
Football à présent, le championnat d'Afrique des Nations en Chan, Algérie 2022.
Pas de match aujourd'hui et demain jeudi. Les matchs de poule ont désigné hier les derniers qualifiés pour les quarts de finale dont le tableau affiche complet. 2 matchs vendredi, le pays hôte, l'Algérie, fera face à la Côte d'Ivoire. Et juste après, le Sénégal affrontera la Mauritanie qui a étonnamment sorti le Mali. Samedi, les novices malgaches qui découvrent cette compétition voudront poursuivre leur belle expérience face au Mozambique. Le dernier quart de finale mettra aux prises le Niger et le Ghana dans un duel ouest-africain.
Ici aux États-Unis, en NBA, LeBron James sort encore le grand jeu, mais son équipe est
stratosphérique avec 46 points marqués dont 9 paniers primés, mais trop seul. LeBron James n'a pas pu empêcher une nouvelle défaite des Los Angeles Lakers contre les Clippers, 133-115. De son côté, Nikola Jokic est lui parvenu à sauver Denver à la Nouvelle-Orléans, 98-99. Dallas s'est incliné à domicile face à Washington, 127-126. À Phoenix, les Suns ont enchaîné avec un 4e succès d'affilée aux dépens de Charlotte, 128-97. À l'Est, le leader Boston a concédé une 2e défaite consécutive à Miami, 98-95. Le Heat reste 6e derrière Cleveland, défait à New York, 105-103, où Julius Randle a brillé avec 36 points et 13 rebonds.
NBA toujours, Kevin Durant est disponible 2 semaines de plus.
C'est l'annonce faite par Brooklyn. La star des Nets soigne une entorse ligamentaire au genou droit occasionnée le 8 janvier. La franchise new-yorkaise ajoute qu'il va renforcer son genou, recommencer à courir cette semaine et participer à quelques phases d'entraînement et sera réévalué dans 2 semaines.
12 fois sélectionné au All-Star Game, Kevin Durant effectuait jusqu'ici une saison digne d'un potentiel MVP. 29,7 points, 6,7 rebonds, 5,3 passes décisives de moyenne en 39 matchs. Brooklyn a remporté 18 de ses 20 dernières rencontres avec Durant sur le terrain. Un choc attend les Nets ce soir à Philadelphie, deuxième à l'Est.
Page de sport VOA Afrique signée Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le principal opposant tchadien Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, a quitté son pays il y a plus de deux mois. C'était peu après les manifestations dont la répression a causé la mort d'au moins 50 personnes selon un bilan officiel. De passage à la VOA ici même à Washington, au micro de Mohamedou Mfa, Succès Masra parle de son départ du Tchad et des événements qui l'ont poussé à quitter son pays.
Je suis à Washington pour porter la voix de mon peuple qui veut installer la démocratie sur la base de la justice et l'égalité et rompre avec la dynastie. J'ai dû quitter mon pays une dizaine de jours après un événement que les Tchadiens appellent désormais le jeudi noir du 20 octobre. La junte qui est arrivée au pouvoir à la mort du président Déby a pris des engagements de rester pour 18 mois. Les 18 mois devaient prendre fin le 20 octobre 2022. Ils ont renié donc l'ensemble de ces engagements. Le peuple était sorti en vaste majorité. Ils ont massacré, comme tout le monde a observé, plus de 300 personnes tuées, plus de 200 portées disparues, plus de 2000 arrêtés, dont un bon millier a été déporté dans une prison de haute sécurité en plein désert et dont nombreux sont morts en cours de route.
Vos partisans et plusieurs personnes s'interrogent. Quand est-ce que vous rentrez au Tchad?
Je ne suis pas en demande d'asile. Moi, j'ai démissionné de mes responsabilités comme économiste quand j'étais à la Banque africaine de développement pour rentrer au Tchad. Faire face à un maréchal qui, à l'époque, était prêt à tuer. Mais nous avons résisté. Et donc, vous voyez bien que cette détermination et ce peuple qui est debout là, c'est à ses côtés que je vais travailler, que je compte travailler. Et donc, ma présence au pays ne fait aucun doute.
Revenons un instant sur les manifestations du 20 octobre, cette terrible journée. Hein, c'était des marches, c'était un sit-in. Qu'est-ce que vous aviez l'intention de faire ce jour-là?
L'objet, et le seul objet, c'est de demander le respect d'un engagement qui a été pris devant notre peuple, devant l'Union africaine, devant les Nations unies. Cet engagement, il est tout simple. C'est que les militaires qui sont arrivés se sont engagés au 20 octobre à rendre le pouvoir. Ils n'ont pas tenu cet engagement. Et le peuple qui était sorti de façon pacifique.
Oui, le général Mahamat Idriss Déby, que nous avons interviewé en décembre dernier, il a dit que ce n'était pas des manifestations, c'était une insurrection, une tentative de coup d'État. Qu'est-ce que vous répondez?
D'abord, une insurrection, c'est lorsqu'on a affaire à un pouvoir élu. Je rappelle au passage qu'il n'est pas élu. La deuxième chose, je crois que des observateurs crédibles comme Human Rights Watch ont clairement démontré qu'il n'y avait même pas d'insurrection. Ils ont même argué qu'il y avait des officiers de l'armée, de la police, etc. qui ont été tués. Nous avons demandé de donner les noms. Impossible de les donner. On est en train de vouloir déplacer l'enjeu.
L'ONG Human Rights Watch a justement rendu public un rapport lundi. Cette organisation demande à la communauté internationale d'apporter une réponse forte après la répression du 20 octobre. Quel type de réponse pensez-vous que la communauté internationale peut apporter?
Ce qui est attendu de l'ONU, c'est deux choses. Soit la fin de la dynastie à travers un accord post-crise sous le modèle de ce qui a été fait par exemple en Côte d'Ivoire, donc un accord onusien dans ce sens, soit une résolution de ce que j'appelle la séparation à l'amiable, où il y aura deux Tchad, le Tchad de ceux qui croient dans la dynastie et leurs accompagnateurs, et de l'autre côté, le deuxième Tchad des pro-démocratie, parce que c'est au nom de ce que j'appelle le droit à l'autodétermination des peuples. Il y a un peuple tchadien majoritaire qui veut la démocratie, et puis il y a une minorité qui veut la dynastie.
C'était l'opposant tchadien Succès Masra au micro de Mohamedou Mfa. L'intégralité de cet entretien en vidéo sera disponible sur notre site web voafrique.com.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
L'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz a été arrêté mardi à la veille de son procès qui s'est ouvert devant une cour criminelle. Sa défense craint un procès politique et les avocats de l'État annoncent un jugement équitable. Anouak Chaut, la correspondante de Mohamed Diop.
Inculpé pour corruption, enrichissement illicite et autres, l'ex-président mauritanien risque jusqu'à 20 ans de prison avec privation des droits civiques. Cependant, Mohamed Ould Abdelaziz n'est pas le seul. Il a 10 co-accusés, dont ses proches et ses anciens ministres. Son avocat, maître Mohamed Chidou, parle de procès faussé dès l'enquête préliminaire.
Ce dossier qui a fait un an, voire plus, à la justice n'a pas fait l'objet d'enquête. En réalité, le parquet et le pôle d'instruction n'ont pas été justes. Ils sont allés jusqu'à même violer les dispositions juridiques qui les régissent. Ils ont mis la loi de côté sans application aucune.
L'avocat de l'État, maître Brahim Ebeti, rejette cet argument.
Lors de l'enquête préliminaire, tout prévenu a eu le droit de se faire assister par un avocat. Et c'est la nouvelle loi portant organisation du barreau qui le consacre, ainsi que lors de l'instruction. Donc, je pense que toutes les garanties sont là, d'autant plus que nous tous, aussi bien avocats de la défense qu'avocats de la partie civile, que la cour, le parquet, tout le monde concourt pour offrir les meilleures garanties pour que ce procès soit l'un des procès uniques du genre, en termes de garanties des droits de la défense, mais aussi en termes de modèle. Des symboles pour toute la sous-région.
Les déboires de Ould Abdelaziz commencent en novembre 2019. Après 4 mois de séjour à l'étranger, il revient pour diriger le parti UPR qu'il avait créé. Cette formation rebaptisée El Insaf détient l'écrasante majorité des parlementaires et les 2/3 des communes. Débute ainsi le bras de fer qu'il va perdre face à son successeur, Mohamed Ould Cheikh El Razouani. Et le parti se range du côté de ce dernier, la défense.
À partir de cette affaire exceptionnelle qu'ils ont créée, peut-être qu'ils cherchaient à priver l'homme illégalement de ses droits civiques et à l'empêcher de faire la politique en raison de son poids important sur la scène politique et de sa popularité chez les Mauritaniens.
L'avocat de l'État
a examiné le fond du dossier, l'ensemble des pièces et l'ensemble des interrogatoires, l'ensemble des investigations, l'ensemble des commissions rogatoires qui ont été exécutées, l'ensemble des indices exclut toute tentative de qualifier ou de dire qu'il s'agit d'un procès politique.
En tout cas, 2 mois plus tard, une commission d'enquête parlementaire épingle l'ex-président qui sera inculpé et placé sous contrôle judiciaire. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la tournée africaine de la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen. Une tournée qui l'a conduit au Sénégal, en Zambie et en Afrique du Sud et qui intervient 2 mois après le sommet des dirigeants États-Unis-Afrique à Washington. Madame Yellen a vanté les mérites d'une nouvelle stratégie économique américaine mutuellement bénéfique et déclaré que l'engagement américain pour l'Afrique n'est pas transactionnel. Sa visite est fortement axée sur l'économie et l'investissement dans un contexte de compétition avec la Chine sur le continent. Qu'attendre de cette tournée? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com. Rediffusion samedi et dimanche.
Au Sénégal, Aminata Touré, dite Mimi, ancienne première ministre, a été déchue de son mandat parlementaire par le bureau de l'Assemblée nationale. C'est le dénouement des tensions nées entre elle et la coalition au pouvoir depuis l'installation de la nouvelle législature. Le point avec notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
La déchéance de Aminata Touré de son mandat de député est un acte politique qui n'honore pas la démocratie sénégalaise car il viole le suffrage universel des votants. Tel est l'avis de beaucoup de Sénégalais interrogés. Cependant, pour Elhadj Niasse, même si la coalition au pouvoir a manqué de grandeur, Aminata Touré, dite Mimi, aurait pu aller au bout de sa logique et suivre l'exemple du président Sall, qui avait démissionné de son poste à l'Assemblée nationale pour rejoindre l'opposition et faire face au régime du président Abdoulaye Wade.
Une analyse, c'est de moi, ça veut faire comme Macky Sall l'a fait en 2012, qu'en 2009 du moins, je me suis consenti, je ne peux pas encore séminer avec eux. J'ai fait me laisser. J'allais aller battre campagne laisser tout ce que Macky Sall m'avait donné, laisser le parti, le mandat de député, tout est allé de mon propre gré, battre campagne et former ma coalition ou bien mon parti pour aller demander le suffrage des Sénégalais.
Consultant pour des organismes privés et publics, ce citoyen a requis l'anonymat pour préserver ses intérêts professionnels. Pour lui, la déchéance du mandat de parlementaire de Aminata Touré dite Mimi est une élimination flagrante et inélégante d'un adversaire politique, un fait qui va à l'encontre des valeurs de la République et de la démocratie.
Elle est élue en tant que députée. C'est le peuple sénégalais qui élit les députés, qui envoie des représentants à l'Assemblée nationale. À partir du moment où c'est le peuple qui choisit ses représentants, il est libre de s'exprimer ou d'avoir des opinions. Voilà, elle n'est pas obligée de des députés godillots qui sont là et qui suivent les directives de l'exécutif.
Cet avis est globalement partagé par les Sénégalais que nous avons rencontrés. Serigne Gueye, commerçant de son état, estime que Mimi Touré ne sort pas perdante de ce bras de fer.
Le pouvoir ne devait pas avoir cette démarche envers Aminata Touré, car elle a tout fait pour leur victoire lors des dernières législatives en étant tête de liste. C'est une vraie battante et tous les Sénégalais savent que Mimi est une dame qui ne se laisse pas faire. Je pense que cette exclusion a un aspect positif car ça va la renforcer en vue des prochaines échéances. Les habitants des zones populaires où elle est affiliée vont certainement lui prêter main forte.
Son exclusion de l'Assemblée nationale actée, Aminata Touré peut essayer de contester la décision devant la justice. Cependant, pour bon nombre de Sénégalais, l'ancienne Premier ministre doit profiter de cette décision pour mieux se positionner sur l'échiquier politique en vue de la présidentielle de l'année prochaine. Seydina Bagueye pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Fin ce mardi à Niamey au Niger de la troisième conférence de haut niveau sur la région du lac Tchad, une initiative des pays de cette région pour solliciter de leurs partenaires internationaux du soutien pour faire face à la crise multidimensionnelle à laquelle la région est confrontée depuis des années. Les conclusions de cette rencontre avec notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
Après deux jours de discussion, des annonces de soutien financier pour aider les populations riveraines du bassin du lac Tchad à un retour rapide à la paix et à la stabilité, ainsi qu'à un renforcement de leur résilience, ont été faites. Mahamane Nuhu, secrétaire exécutif de la commission du bassin du lac Tchad. Les problèmes ont été clairement identifiés et je suis heureux que nous soyons parvenus à combler le gap entre les humanitaires, les acteurs de développement et ceux de la paix. Le nexus n'est pas totalement atteint, mais nous y sommes presque. Il y a eu des annonces de soutien de la part de divers pays. Le Royaume-Uni, par exemple, a annoncé 50 millions de livres sterling, l'Allemagne 100 millions d'euros et bien d'autres annonces que nous apprécions énormément. Et nous attendons d'autres partenaires qui voudront bien venir aider les populations de la région. Les gouvernements des pays de la région du lac Tchad vont donc, avec les fonds ainsi annoncés par leurs partenaires, définir les priorités des projets de stabilisation et ou de relèvement à mettre en œuvre dans les zones affectées. Hassoumi Massaoudou, ministre nigérien des Affaires étrangères.
Les programmes de stabilisation doivent s'appuyer sur une participation claire des populations pour identifier les projets en fonction des besoins réels de ces populations. Les déplacements massifs des populations représentent un véritable défi dans la région du lac Tchad. Les populations déplacées ont besoin de solutions durables basées sur le retour, la réintégration et la reprise d'activités économiques. Je voudrais alors lancer un appel à tous les partenaires en vue d'une mobilisation conséquente et d'un soutien adéquat aux efforts des gouvernements des pays de la région dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de stabilisation et de relèvement des zones affectées.
La dernière édition de cette conférence de haut niveau sur la région du bassin du lac Tchad s'est tenue à Berlin, en Allemagne, en 2018. Depuis, la crise dans cette région s'est aggravée avec une augmentation de la violence, des défis de développement, des besoins humanitaires et des obstacles à l'accès aux services sociaux de base, aux systèmes de production et à l'aide humanitaire. 5,3 millions de personnes sont toujours déplacées au sein
européenne de la région. Les exigences de financement pour les interventions d'urgence dans cette région se sont accrues de quelques 259 millions de dollars américains, alors que les besoins au fin de la stabilisation sont estimés, eux, à 1,8 milliard de dollars américains. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.